Quand j'ai voulu chercher un texte plus pour la rentrée, je me suis dit de quoi je pourrais parler. Et puis bon, rien de mieux que de prendre la situation qu'on vit pour se rendre, enfin, pour mieux savoir comment on peut partager le message que Dieu nous a livré et puis m'a livré pour vous. Et j'avais un passage en tête, ça se trouve donc dans plusieurs évangiles, mais on va le prendre dans Marc 14, versets 32 et 42, à 42. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai choisi ce passage. Donc Marc 14, versets 32 à 42. Ils arrivent au lieu nommé Gethsémani. Donc là, on se trouve juste avant l'arrestation de Jésus, donc après que le repas dans lequel aussi Judas part en courant, voilà. Pour situer un petit peu où on se trouve. Donc, il arrive au lieu nommé Gethsémané. Donc, et il dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Il leur dit: Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez. S'étant avancé un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il vient et les trouve endormis. Il dit alors à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller une heure? Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il s'éloigna encore et pria en répétant les mêmes paroles. Puis il revint et les trouva endormis. Car ils avaient les yeux lourds, ils ne savaient que lui répondre. Il vient pour la troisième fois et leur dit: Vous dormez encore? Vous vous reposez? C'en est fait, l'heure est venue, le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'est approché. On a la fin de la lecture. J'ai pensé à ce texte parce que on voit Jésus là dans une situation un petit peu difficile, même pas un petit peu. On voit même physiquement, il est touché malgré que pour l'instant on ne l'a pas touché physiquement, mais pourtant ça se ressent physiquement pour lui. Et ça m'a fait penser aussi à ce qu'on peut ressentir quand on se sent un peu dans des situations difficiles qu'on peut connaître. Là, pour nous, ces dernières semaines, c'était pas évident. Des situations où on peut être angoissé. Des situations où on peut se dire, mais qu'est-ce qui va arriver, quoi? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Alors, dans ce cas-là, Jésus sait ce qui va arriver, et c'est ce qui, justement, l'angoisse. Mais j'ai trouvé, en tout cas, dans ce texte, beaucoup de réconfort aussi, de voir que Jésus, le Fils de Dieu, a pu vivre ces sentiments d'angoisse, ces sentiments où la peur était là. Et je me suis dit, c'est aussi, pourquoi pas une prédication pour la rentrée scolaire? Parce que Souvent, il peut arriver qu'on a planifié toute nos rentrées, mais la rentrée, elle approche et on voit que ben, tout n'est pas comme on aurait voulu. On n'a pas eu peut-être la formation qu'on voulait avoir. Voilà, on voulait scolariser les enfants à tel endroit, ça n'a pas marché. On voulait mettre à la crèche un bébé. Plein de choses à la rentrée que parfois on est dépassé, plein de papiers aussi, souvent plein de paperasse qu'il faut faire, et puis en plus voilà, les impôts vont bien, non, les impôts sont déjà passés, mais il y a c'est les impôts locaux qui vont arriver. Voilà, c'est ça, c'est les impôts locaux vont arriver bientôt. Il y a le budget à bien ficeler, plein de choses qui peuvent nous mettre dans des tensions, dans des stress. Et c'est ce que j'ai remarqué assez souvent pour des personnes à la rentrée, que ben, parfois, voilà, ça se passe bien, enfin, les gens sont contents parce que voilà, la rentrée a pu se faire bien. Mais parfois, c'est difficile aussi. Et donc, j'ai pensé à ce texte parce que je trouve un réconfort de voir Jésus, qui, non pas parce que comment dire, j'aime le fait de voir des gens souffrir, pas du tout, hein, mais plutôt parce que de me rendre compte, mais que même le Fils de Dieu a pu ressentir ça. Et dans ce texte, comme je l'ai dit, il y a cette notion de peur, cette notion d'angoisse. Mais il y a cette question assez primordiale aussi. On voit que Jésus, il est là, il arrive à Gethsémané pour la prière, pour prier. Mais il est là pour prier, mais il n'est pas tout seul aussi. Il est avec ses disciples et même ses plus proches disciples, ses plus proches compagnons. Et il demande de veiller et de prier. Oui, Jésus, là, dans cette situation, il est accablé. Il y a l'heure qui arrive, l'heure fatidique. Et c'est pour cela que Jésus demande de veiller et de prier. Et Jésus aussi, par deux fois, va, dans ce texte, il nous montre, va dire si c'est possible. Que je ne vive pas ça, mais quand même, c'est ta volonté que je veux faire. Mais si possible, éloigne-moi de cette coupe, comme il dirait, éloigne-moi de cette situation, mais que la volonté de Dieu soit faite. Vous savez, l'angoisse qui le saisit. Et ce que nous pouvons parfois ressentir aussi, cette angoisse, on a l'impression de ne pas pouvoir la contrôler. C'est toujours au mauvais moment que ça nous arrive. C'est comme une chape qui nous arrive sur nos épaules. Et comme Jésus, là, semble vivre cela, on peut se poser la question, mais alors, quelle est cette bonne attitude que nous pouvons avoir quand cela nous arrive, quand on a l'impression de ne pas pouvoir contrôler et que ce stress, peut-être presque la dépression, peut nous arriver. Si Jésus l'a vécu, comment il a pu vivre cela alors que cet être si parfait, qui n'a pas péché? Aussi, j'ai pu voir parce que là, on parle du lieu de Gethsémané. Il semblerait que ça se trouve dans un jardin, de ce que j'ai lu. Et je me suis dit, c'est un lien intéressant de faire aussi avec le jardin d'Éden. Là, on est donc c'est le jardin de Gethsémané. Quel lien on pourrait faire? Et je trouvais intéressant de voir ce lien par rapport à ce combat contre le péché. La lutte contre le péché. Parce que dans un cas du jardin d'Éden, c'est vrai qu'il n'y avait pas ces angoisses, il n'y avait pas cette peur qu'il y avait pour Adam et Ève. Mais pourquoi il n'y avait pas cela? Tout simplement, ils étaient aveuglés par la situation. Ils ne voyaient pas le mal, ou en tout cas, ils se sont cachés de cela. Ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Mais pourtant, le péché est arrivé à ce moment-là. Pour Jésus, il est face à une situation où, quelque part, il voudrait prendre ce fruit, si on fait cette image avec le jardin d'Éden, quelque part, il peut ne pas vivre ce qu'il va vivre. Jésus peut tout faire, il pourrait ne pas se laisser livrer pour sauver finalement toute l'humanité, rappelons-nous, pas toute l'humanité, excusez-moi, de beaucoup de monde, comme c'est dit dans le passage, mais pour tout le monde, hein, quand même, pour ceux qui l'acceptent. Pour ceux qui acceptent son sacrifice. Donc je trouvais intéressant ce lien qu'on pouvait faire aussi avec le jardin d'Éden, ce combat contre le péché. Donc on voit cette angoisse profonde de Jésus. Ce qui est quand même différent par rapport à ce que nous pouvons faire pour gérer l'angoisse souvent. Malheureusement, c'est que Jésus le gère différemment. Jésus, il dit quand même, ce n'est pas moi. Si c'est moi, attendez, parce que comment je voulais dire, que ce soit la volonté du Père qui soit faite, que ce soit pas moi. C'est pas exactement comme ça que c'est écrit, mais en gros c'est ça, hein, que ce soit la volonté du Père qui se fasse. J'ai pas envie de vivre cela, mais que ce soit le Père qui fasse sa volonté. Et on voit donc au verset 38, si on peut le lire, Jésus demande à ce que ses disciples, ses proches disciples qui l'accompagnaient, puissent veiller et prier, afin de ne pas entrer dans la tentation. Non, je me perds tout le temps avec cette petite Bible. Afin de ne pas entrer dans l'épreuve, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. L'homme est plein de bonne volonté souvent, et on le voit, les disciples voudraient prier et veiller. Ils sont pleins de bonne volonté, mais souvent incapables de faire même cela. Et on le voit, ça, plusieurs fois, Jésus qui me dit « Veillez et priez », et à chaque fois, il s'endort. Mais alors, comment on peut faire si on est incapable même de veiller et de prier? Et c'est vrai que c'est souvent, c'est au moment où on se sent faible, où on sent le plus faible, le plus vulnérable, mais que c'est là où c'est le plus difficile de gérer tout ce qu'on peut avoir, les angoisses et tout cela. Si encore on pouvait avoir les angoisses quand on se sent fort, quand on... Ben oui, on pourrait voilà, dire, mais oui, que ta volonté soit faite. Mais c'est à des moments où on se sent faible, où on n'arrive même plus à voir, où c'est le brouillard dans notre vie, malheureusement. Et bien que souvent, on a à lutter contre toutes ces choses qui nous viennent. Alors, au verset 37 à 42, on voit que, oui, les disciples, Jésus parle à Simon. Il dit, mais Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Il n'a pas été capable de veiller une heure. On peut se demander, mais on n'a plus le droit de dormir. S'il n'a pas été capable de veiller une heure, c'est qu'il devait être extrêmement fatigué. Pourquoi il ne pourrait pas dormir? On se trouve là, un moment précis de l'histoire, un moment précis si important que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment de dormir. Et je crois que là, il y a une image aussi dans ce texte, un peu, si on prenait aujourd'hui cette image, mais peut-être parfois des chrétiens qui sont endormis. Ce serait un peu cette image-là. On n'est pas capable de veiller et de prier pendant une heure. Jésus n'est pas allé tout seul dans ce jardin. Jésus qui est quand même le Fils de Dieu, qui est parfait, c'est un homme, mais parfait. Il est Dieu aussi. Mais il a voulu être avec ses compagnons les plus proches. Et il attendait quelque chose de ses compagnons. Il attendait qu'il puisse veiller et prier. Mais, pourtant, la réalité, c'est que Jésus va lutter seul. Il va se sentir rejeté de tout le monde. Et même plus tard, vous connaissez bien cette phrase où Jésus dit, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus se trouve vraiment seul. Et se sentir seul, il y a de quoi d'avoir les pires angoisses. Tout simplement parce que le péché du monde va le séparer du Père même. C'est quand même incroyable. C'est nous qui commettons tous les péchés, où nous sommes si infidèles. Et là, c'est Jésus qui va vivre la pire chose, la pire angoisse du sang qui va sortir de lui, tellement il va être mis sous tension. Et pourtant, oui, c'est lui qui va vivre toutes ces choses. Et je pensais aussi que nous avons un message à faire passer pour aussi notre communauté, pour nos amis chrétiens. Parce que parfois, on peut se sentir, on peut être endormi, même moi ou d'autres, alors que c'est le moment de prier. Puis parfois, on peut se sentir aussi délaissé par les autres. On peut se dire, mais comment ça se fait que les autres, ils sont pas si réceptifs, je vis quelque chose de grave quand même là et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas disponibles pour moi. Comment tu peux partir au badminton alors que là, ce que je vis là, c'est très grave. Et on voit dans ce texte aussi cette question de cette fidélité avec les amis qu'on peut avoir. Mais ce qu'on voit surtout, c'est cette fidélité de Dieu. Fidélité de Dieu qui est grande. Quand tous nos proches nous abandonnent, lui, il demeure fidèle. Il y a un psaume, le psaume 27, qui dit au verset 9 et 12. Ne te détourne pas de moi, ne me repousse pas avec colère. Moi, ton serviteur, tu es mon secours. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. lui y demeure fidèle. Alors, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui se sentent fatiguées aussi. Trop fatiguées pour redémarrer cette année, comme les disciples ont été là. Tu vois peut-être l'avenir avec angoisse. Peut-être c'est une angoisse qui est même profonde. Et j'aimerais que, en Église, on puisse prier pour toi. S'il y a des personnes qui se sentent dans cette situation, je pense que voilà, vous pouvez vous lever si vous voulez, et peut-être s'il y a quelques personnes du groupe de travail, s'il y a plusieurs qui demandent la prière, pourront venir. Mais on va prier pour que cette rentrée puisse être que cet avenir que vous voyez ne puisse pas perturber votre relation avec Dieu, et que vous voyez cet avenir plutôt comme quelque chose que Dieu va vous donner une vraie espérance. Et on pourra prier pour une situation ou une autre. Donc vraiment, là, ce moment, je vous laisse vraiment, vous pouvez vous lever, et voilà, s'il y a des personnes aussi du groupe de travail qui voudront aussi venir, et on va vraiment prier pour chacun, et que vraiment on puisse porter chacun dans la prière pour cette nouvelle année scolaire.